10h36, on sait qu'on recycle depuis longtemps. Je pense que c'est fait partie maintenant de notre façon de vivre. Moi, c'est ce que je pensais. Hein? Je me disais, ben écoute, je sais comment, j'ai mon bac. Généralement, je mets mon papier, mon plastique, les choses que je crois vont à la récupération. Mais là, je regarde les chiffres et je me rends compte que je suis un petit peu découragée, surtout par les choses que l'on jette encore et qu'on ne récupère pas. Il n'y a peut-être pas d'autres moyens aussi, vous allez me dire. Il y a la firme britannique de gestion de risque Verisk Maplecroft qui a fait les chiffres, en fait, dans différents pays et on dit qu'au Canada, on jette par habitant 777 kg de déchets par année. Je trouve que ça fait pas mal. On me dit qu'au Québec, c'est un petit peu moins, 685 kg. Quand même, c'est beaucoup. Et on recycle qu'au Canada 24 % des déchets municipaux. C'est plus au Québec, mais je pense que c'est pas encore assez. Est-ce que vous savez recycler correctement? Est-ce que le compost pourrait faire partie davantage de notre vie? Est-ce que les municipalités devraient même l'obliger? On va en parler avec Amélie Côté, qui est spécialiste en gestion des matières résiduelles et cofondatrice de la coopérative Incita. Bonjour Amélie, merci d'être là.
Bonjour Catherine.
Ça se passe comment au Québec? Parce qu'on a beaucoup de chiffres pour le Canada. Moi, je trouve ça quand même assez intense, là, 777 kg. Même 685 au Québec, je trouve ça beaucoup aussi de déchets par année, par personne. Là, je suis en train de penser à ce qu'est-ce que je jette et qu'est-ce que j'aurais pu recycler. Je pense que c'est la question que bien des gens se posent aussi. Ou c'est parce que c'est par laxisme?
En fait, c'est sûr que en Amérique du Nord, on est reconnu comme étant des grands consommateurs. Donc, nécessairement, derrière ça, il y a une génération de déchets hein, qui est liée à toute notre consommation. On parle de ce qui est jeté, mais il y a aussi ce qui est envoyé, dans certains cas, au recyclage et qui ne devrait pas nécessairement l'être. Au Québec, en fait, le taux de récupération des matières recyclables, là, de ce qui va au bac bleu, finalement, ou au bac vert, selon votre ville, c'est 54 %. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus élevé que la moyenne canadienne, mais je suis d'accord qu'il y a encore beaucoup à faire pour s'améliorer. Ça fait depuis les années 90 qu'on a ce système et on remarque une certaine stagnation dans le taux de récupération qu'on arrive à obtenir là, au fil des années.
Donc, je parlais de laxisme, c'est-à-dire que puis il faut faire un effort, puis ça on le sait, puis il y a des mesures, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a de la publicité, on tente de nous inciter, mais des fois, quand on voit que, même des fois, quand je mets des choses à la récupération, bien ça s'en va, et c'est arrivé, on l'a vu dans l'actualité aussi, ça s'en va plutôt dans un dépotoir ou ça s'en va dans un site d'enfouissement. Parce qu'on n'a plus de place, parce qu'on n'a pas les moyens, ça peut décourager les gens aussi.
Mm-hmm. Bien, il y a personne dans toute la chaîne, là, même les centres de tri, les recycleurs, les conditionneurs, qui ont envie que les matières se retrouvent à l'enfouissement. Donc, on s'est retrouvé avec une situation avec la Chine qui a cessé. En fait, la Chine a rehaussé ses standards de qualité pour les matières recyclables qu'on leur envoyait. Il faut savoir donc que le papier, le carton, on l'envoyait en majorité à l'exportation en Chine. Donc, ça force finalement les centres de tri à revoir leur manière de faire, à trier des matières de meilleure qualité. Puis c'est sûr que d'une part, les consommateurs, les citoyens et citoyennes, on doit bien trier nos matières au début de la chaîne. Puis tout au long du processus aussi, donc il y a un travail à faire pour améliorer les technologies de tri. C'est un travail qui est en cours. Beaucoup de centres de tri ont acheté des équipements plus perfectionnés justement pour et puis revu leur processus en fait là pour avoir les matières de meilleure qualité pour éviter que cette situation-là se reproduise.
Et puis on souhaite que ça se reproduise pas non plus, puis on va veiller là-dessus aussi évidemment parce que je me dis il y a quand même des choses à faire à tous les jours. Il y a le gouvernement Trudeau, on l'a vu d'ailleurs, qui va obliger les gens à restreindre en fait tout ce qui est paille, plastique, bouteille d'eau. Est-ce que tu crois que ça peut être quelque chose qui va vraiment inciter les gens à davantage penser à l'environnement, penser au recyclage, penser à leur façon peut-être de se comporter?
Mais ce qui est intéressant dans cette réflexion-là, c'est qu'on cible particulièrement les articles à usage unique. Donc souvent, un sac en plastique, une paille, une fourchette en plastique également, ça se recycle très peu ou parfois, c'est pas nécessairement accepté au bac. Donc, on vient cibler des articles qu'on consomme en très grande quantité. On peut penser aussi au gobelet de café.
Le petit gobelet d'eau là, aussi qu'on retrouve parfois dans les distributrices. Ouais.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est des matières qui vont pas très bien dans la chaîne du recyclage. Donc, en allant là et en faisant... ça incite les gens à réfléchir, à revoir des habitudes de consommation et un peu le mode de vie. Parce que l'usage unique, ça n'existait pas dans nos vies il y a 50 ans. Les gobelets café, il y a une dizaine d'années, ça n'avait pas pris l'ampleur que ça a aujourd'hui. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là de cibler des matières qui vont pas bien dans la chaîne de tri. Mais je crois aussi qu'il faut aller plus loin dans la réduction de la consommation en prolongeant la durée de vie des objets, par exemple.
Avec l'obsolescence programmée, ça, c'est difficile. Là. On entend là, beaucoup de choses là-dessus aussi.
Oui, c'est ça. Ben, il y a une part qui peut être effectivement imputable aux compagnies, mais il y a aussi dans nos habitudes de vie de renouveler, par exemple, très souvent la garde-robe. Ça a une empreinte environnementale qu'on ne soupçonne pas et qui est très importante.
Oui, c'est vrai. D'avoir toujours la dernière chose à la mode aussi. Peut-être on est comme... Tu le mentionnais tantôt, on est dans une façon de consommer tellement à outrance aussi en Amérique du Nord qu'on veut toujours qu'est-ce qui est le dernier cri, qu'est-ce qui est la dernière chose. Même les cellulaires aussi. Dès que notre cellulaire est fini, on va en acheter un autre, puis c'est pas dit qu'on va le récupérer ou qu'on va le donner à des ressourceries.
Il n'est pas nécessairement fini, en fait. C'est ça l'enjeu.
Oui.
Puis dans cette réflexion-là, de la même manière qu'on exporte des matières recyclables, quand on exporte ou quand des objets sont produits à l'étranger, on sait pas toujours dans quelles conditions sociales. Donc, c'est quoi les normes de travail des gens qui sont là? Parfois, il y a des enfants aussi qui travaillent, donc derrière ça. Puis les normes environnementales aussi dans lesquelles c'est fait. Donc, les matières recyclables, quand elles sont retriées, par exemple, en Asie, bien probablement que ça ne respecte pas les normes environnementales qu'on s'est fixées au Québec aussi. Donc ça doit faire partie, je pense, des réflexions plus larges sur la consommation.
Une conscience sociale également. Je lisais dans la presse ce matin... Un article, en fait, ça me fait sidérer, je vous avoue, là, parce qu'on parle de caméras de sécurité pour défendre un peu ce qu'on appelle les bacs bleus, de défendre également les gens qui jettent à peu près n'importe quoi, n'importe où. Et on a mis même des caméras de sécurité à certains endroits pour surveiller tout ça, notamment dans les endroits où il y a plus de logements loués par Airbnb, aussi des gens qui sont peut-être moins familiers. On va le souhaiter qu'ils sont moins familiers, là. qu'ils ne fassent pas ça de façon consciente. Et même la semaine dernière, quelqu'un aurait placé un sac à ordures dans son bac de récupération des huiles et l'aurait fait déborder. Mmh. Ça, c'est pas le genre de choses qu'on voit trop souvent, j'espère? Ou c'est encore fréquent?
C'est sûr que là, c'est la pire période de l'année, nécessairement avec le 1er juillet où une très grosse proportion de la population déménage, ça génère beaucoup de déchets. Quand on pense à des gros meubles, ce qu'on dit des encombrants, qui sont difficilement déplaçables là, pour des personnes qui n'ont pas de voiture, ben ça se retrouve nécessairement sur le bord de la rue, ça vient encombrer. Bon là on fait le ménage aussi, on jette beaucoup de choses. Des fois de savoir là où il faudrait les acheminer, c'est pas nécessairement si facile de trouver l'information. Donc il y a tous ces éléments-là qui viennent influencer là, le cas sur le plateau Mont-Royal, en particulier d'avoir un bon taux de déménagement aussi. C'est malheureusement encore des problématiques qu'on vit en 2019. Puis je pense qu'il n'y aura jamais assez de sensibilisation qui sera faite sur ces questions-là. Donc, quand on parle des locataires de Airbnb, là, ça, c'est un autre dossier aussi, là, la question des Airbnb et de l'accès au logement. Mais est-ce que les personnes qui louent leur Airbnb auraient une responsabilité de faire de la sensibilisation ou de transmettre l'information pour s'assurer là, parce que c'est une activité commerciale, finalement. Donc, c'est quoi la responsabilité des entreprises pour s'assurer qu'il y a que les matières soient bien gérées aussi? Parce que c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de conséquences, par exemple, d'amende, on peut pas faire le suivi des matières qui sont jetées comme ça sauvagement dans les ruelles, c'est difficile d'arriver à un changement d'habitude.
Oui, puis le changement d'habitude, parfois, puis ça, je trouve ça bien plate de dire, mais ça doit être plus restrictif. Est-ce que c'est par loi? Est-ce que c'est par des amendes aussi? Puis là, je veux pas aller... puis ça, je sais, je l'ai déjà vu, des voisins qui allaient fouiller là, dans le bac bleu pour être sûr. dans les poubelles. Ça, vous l'avez vu aussi. Puis là, et qui laissait des petits post-it à la personne pour dire, hey, c'est parce que là, tu avais des bouteilles de vin, puis là, tu avais telle chose que tu aurais pu mettre dans ton bac et tu l'as pas fait. Et vice-versa. Donc, dans ton bac de récupération, tu as mis des choses qui n'allaient pas au recyclage. Je vous dis pas de faire ça. Je veux pas qu'il y ait une police non plus de la récupération, mais il reste que quand ça fait mal. C'est souvent comme ça, malheureusement, qu'on apprend.
Ben, c'est les deux, je crois. Donc, d'une part, peut-être que ça prend plus de sensibilisation. Donc, des personnes qui vont. Puis, je pense qu'un humain, c'est vraiment le meilleur médium pour aller rejoindre quelqu'un, là, de parler à quelqu'un, puis de comprendre, d'être en mesure de qu'il réponde à toutes les questions qu'on a. Puis, des fois, effectivement, ça prend des contraintes. Mais il y a un exemple là, dans une. Je pense que c'était en Gaspésie où on avait installé un système de puces pour identifier là où il y y avait des enjeux de tri de matières recyclables et de déchets, donc là où les gens recyclaient moins. Puis, une escouade verte est allée rencontrer les personnes pour leur parler directement. Puis ça a augmenté vraiment le taux de participation à la collecte des matières recyclables, là, d'une dizaine de pourcents quand même, qui est significatif. Donc, je pense que ça prend, d'une part, de la sensibilisation, puis aussi des contraintes. Donc, on parle souvent des citoyens, mais il y a aussi les entreprises qui sont des grands générateurs. Puis à l'heure actuelle, il n'y a pas nécessairement de contraintes légales à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être une voie intéressante éventuellement.
Mais elle n'est pas trop fouillée dans le bac du voisin. Puis si vous le faites, ben allez lui parler gentiment. Hein? Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de faire comme une escouade. Là, on va dire ça comme ça.
Mais... Oui, puis il y a des brigades vertes, des éco-quartiers
aussi,
dont c'est le rôle. Donc, eux, ils peuvent vous pouvez les contacter directement pour qu'ils aillent faire des interventions. Des fois aussi, ils ont une expertise dans la manière d'intervenir. Puis ça va maintenir des liens de bon voisinage aussi.
Oui, ça aussi, c'est important. Amélie Côté, merci d'être avec nous. On poursuit la discussion. Puis je vous invite d'ailleurs à nous appeler. Est-ce que vous avez déjà vécu peut-être quelque chose de similaire dans votre quartier? Ou encore, est-ce que vous vous dites, ben moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est recyclable finalement. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas de quelle façon. Peut-être dans les centres de tri. On va en parler. Donc, 514-790-9850. Savez-vous recycler? Et là, je sais que la question est très, très simple, mais allez fouiller dans votre bac bleu ou bac vert, tout dépend dans la ville où vous êtes. Et je suis convaincue qu'il y a des affaires que vous avez placées, que vous placez à chaque semaine et que finalement, ça y va pas du tout. Et d'autres affaires que vous jetez et que ça pourrait être récupéré. Avec Amélie Côté, qui est spécialiste en gestion des matières résiduelles et cofondatrice de la coopérative Incita. Amélie, on parlait de sensibilisation, on parlait qu'on en a quand même beaucoup jasé de recyclage et des campagnes également, de publicité sur le web, à la télévision, à la radio. Mais est-ce que les gens, ils portent attention? C'est ce que je me demande, moi. Est-ce que ça, le message passe?
Ben quand on observe les statistiques des centres de tri, donc où on achemine toutes les matières recyclables, en 2015, le taux de rejet des centres de tri, c'était de 9,1. Ça veut dire qu'il y a 9,1 des matières acheminées dans les centres de tri qui ne devaient pas y aller. Ce qui est peut-être moins pire que ce qu'on imagine.
Oui. Là.
Moi, a priori, les impressions étaient plus élevées. Moi, j'ai plusieurs petits trucs, en fait, pour bien comprendre qu'est-ce qui va au recyclage. Et dans un premier temps, ce qui est visé par la collecte sélective, c'est les contenants, les emballages et les imprimés. Donc, c'est pas parce que c'est en plastique, mettons un jouet en plastique, ça va pas au recyclage, même si des fois on a l'impression que c'est une matière qui devrait être recyclée.
Mais je viens de me faire pogner. Parce que j'ai exactement fait ça hier à part de ça.
Et, oh!
Oui, là, je me tape sur les doigts. Je vais complètement changer ma façon de faire. Et il y a des gens, d'ailleurs, qui veulent avoir des conseils pour le recyclage. On va parler avec Christian. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez une interrogation concernant le verre.
Oui, parce que dernièrement, à la télévision, j'ai souvent vu dans des reportages là sur le recyclage, ça disait que le verre contaminait beaucoup les autres matières recyclables, comme le papier, par exemple. Donc, maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit mettre le verre aux ordures normales ou on le met au recyclage?
On le met au recyclage. Effectivement, il y a eu plusieurs enjeux. Ça découle, entre autres, là, du fait qu'avant, on avait une usine de recyclage de verre au Québec qui a fermé en 2013. Donc, il y a un petit peu moins de marché. Puis le verre, quand il est brisé là, tout au long du processus dans les centres de tri, il peut venir contaminer d'autres matières. Donc là, la tendance, puis ce qui est fait dans plusieurs centres de tri, dont le futur centre de tri de Montréal qui va arriver là au courant de l'année 2019, c'est qu'on intègre des technologies de tri qui permettent de retirer dès le début de la chaîne de tri le verre pour éviter que ça contamine là, par la suite. Donc, c'est vraiment la tendance qu'on observe pour justement s'assurer que le verre soit recyclé. Donc, je dirais de poursuivre malgré ce qu'on a entendu dans les médias. Et puis, c'est intéressant aussi de savoir qu'il va y avoir une commission parlementaire sur le verre au mois d'août. C'est un enjeu qui est pris au sérieux là, au niveau gouvernemental puis des organismes environnementaux aussi, de l'industrie. Donc, vraiment, il y aura un travail de fond là, pour s'assurer de régler cette situation.
Merci, Christian. Louise, vous vous demandez si les vêtements souillés, on peut les mettre à la récupération, c'est bien ça?
Oui, bien c'est ça. Je me dis, où est-ce qu'on met ça?
Oui.
Puis il y en a.
Les vêtements souillés, c'est une question piège. Les vêtements qui sont encore en état, on peut les envoyer à la friperie. Mais ceux souillés, là, moi, je vous dirais... Ça va aux déchets.
On peut pas les récupérer, là.
Non, ben, mais... Oui, allez-y.
Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis. On peut vraiment pas récupérer ça. Mais je me suis dit, ça doit en faire des tonnes de petites culottes, ça, hommes et femmes, dans les déchets.
C'est sûr que.
Et c'est là qu'on envoie là.
Ouais, ça fait. Malheureusement, ben il y a une entreprise au Québec qui s'appelle Certex qui fait du travail avec les vêtements recyclés, mais au niveau résidentiel, il y a pas de solution. Donc au niveau commercial, okay. Quand c'est des grandes quantités, il y a un travail qui est fait. Pour les vieux bas troués, il y a des solutions qui existent là, dans le milieu du zéro déchet. Plusieurs personnes se font des petites éponges, là, ce qu'on appelle des tawashi.
Ouais.
Puis ça, vous pouvez trouver là, un tutoriel sur YouTube pour le faire. C'est quand même une drôle d'activité relativement simple. Puis on en a quand même tous et toutes des quantités de bas troués.
Oui.
On peut les réparer aussi avant que ce soit des trop gros trous,
oui,
évidemment.
Ça peut servir de linge également, linge à vaisselle. Il faut être imaginatif aussi à un moment donné. T'sais, si on vous êtes un petit peu manuel, là, faire un peu de couture aussi, être capable de juxtaposer peut-être les petites culottes ensemble puis bien nettoyer, puis d'un moment donné, il faut être plus écolo. Là.
C'est ça, puis c'est avant qu'il ne soit trop tard. Donc, si on répare le vêtement tout de suite, alors qu'il y a un petit trou, ben on va pouvoir prolonger sa durée de vie.
Amélie Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis je rappelle que l'application de Recycle Québec, qui n'est pas bête non plus, ça va où? Où on peut savoir, si on se pose une question, à savoir est-ce que ça s'en va dans le bac vert ou dans le bac bleu, ben justement, on peut avoir une petite idée de ce que c'est.
Oui, tout à fait. Puis c'est une application géolocalisée aussi. Donc, ça va être vraiment selon la ville où vous êtes. Donc, très adapté en fonction de vos questions.
Amélie Côté, spécialiste en gestion des matières résiduelles et cofondatrice de la coopérative Insta. Merci beaucoup pour les précieux conseils. Dan Mira, salut.
Allô.
Comment ça va avec le beau soleil, 31 degrés?
Ben écoute, moi, pour moi, c'est fantastique.
C'est beau, hein?
Oui.
Ça fait du bien?
Ça fait beaucoup de bien. On a chialé après le fret. Mais c'est vrai que le corps humain est fait pour marcher dans un certain barème de température. Fait que trop chaud, c'est difficile aussi pour ceux qui n'ont pas de climatiseur.
Et les personnes âgées
Nous
également.
Autres ici, chez Cogeco, on en a des climatiseurs.
On en a peut-être trop.
On est bien contents.
On se promène avec la petite laine. Écoute, un sujet moi qui me fait sursauter, qui me fait rager, les thérapies de conversion. Sérieusement, je savais que ça se passait un petit peu, mais ici, et là, tant mieux, Ottawa qui veut demander aux provinces de l'aider à les bannir.
Oui, et même de criminaliser ça, qu'il y ait des sanctions, ça devrait être illégal, c'est mon avis aussi. Je sais pas si t'es hétéro. Moi, je le suis. Mais c'est comme si on me demandait à moi, c'est qu'on m'expliquait qu'à moi, qu'être hétéro, c'est une maladie, c'est pas bien, c'est le diable, c'est tout ça. Parce que je vis de l'intolérance à côté de moi, de gens dans un milieu gay, mettons, qui admettrait pas mon orientation. Et puis là, qui m'explique qu'on peut me guérir de ma maladie. Fait que ça, dans le fond, c'est qu'il t'enseigne à ne pas être toi. En tout cas, c'est extrêmement vicieux et pernicieux. Puis d'ordonner à un être humain de ne pas être lui, ça peut mener au suicide. Ou en tout cas, des traumatismes graves, des dépressions épouvantables. Surtout quand on fait ces thérapies-là sur, par exemple, un kid de 12 ans qui, lui, est influençable puis qui peut croire vraiment qu'il est possédé par le démon, s'il y a des parents très religieux aussi. Tu sais, c'est la religion puis le démon, ça va ensemble. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas au Yorb non plus, généralement, ça va ensemble. Alors, mais là, dans ce temps-là, on parle de maladie pour eux. C'est des non seulement c'est des thérapies qui sont épouvantables, mais qui coûtent des centaines de dollars et qui sont sujettes au crédit d'impôt. C'est cute, ça, hein?
Ah.
Ils sauvent de l'argent.
En plus.
En plus.
En faisant ça.
Et puis, ils font des dégâts épouvantables. Fait que, ben, écoute, Ottawa qui met ses culottes, là, ben, je suis content. Évidemment, c'est partagé comme responsabilité. Fait qu'ils demandent aux provinces aussi de faire un bout.
Mais, enfin, je pense qu'il faut que tout le monde fasse un bout rendu là, là.
Rendu là. Il est à peu près temps. On est un peu tanné, là.
Oui. Dan, merci beaucoup. On te retrouve à midi. On se retrouve pour les informations Cogeco dans les prochaines minutes. Et au retour, on va parler de voyage et horticulture.